Voici les titres du journal.
Certains betteraviers de la plaine du Rhône s'accrochent à cette culture malgré un contexte très difficile. Ils vont voir le prix d'achat du légume rouge augmenter l'année prochaine. Reste que de nouvelles maladies prétéritent le taux de sucre de la racine et donc le revenu. Montais, la première ville industrielle du Valais, afin de mieux comprendre comment la cité chablaisienne est devenue ce qu'elle est, des visites guidées sont proposées par l'Office du tourisme. À l'approche du 28 novembre et des votations fédérales, les tendances semblent plutôt claires. Nous ferons le point avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron et Devsouter ont remporté leurs 10 derniers matchs et ils ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Et en ski alpin, l'heure de la rentrée a sonné sur le front de la Coupe du Monde.
Le temps sera de plus en plus ensoleillé cet après-midi. Ce week-end, du stratus est attendu jusque vers 1000 mètres le matin. Sinon, le temps sera ensoleillé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel et bonjour à tous. Polyval fête son 50e anniversaire. Afin de célébrer ce jubilé, le président de la Confédération, Guy Parmelin, a été invité aujourd'hui au siège de la Fondation à Cheuseau-sur-Lausanne. Pour rappel, l'entreprise à vocation sociale et industrielle emploie 560 personnes en situation de handicap dans 9 ateliers du canton de Vaud, dont à Aigle et Les Ains. La Fondation Polyval est née en 1971 de la fusion de deux entités, l'entraide professionnelle de Lausanne et le lien de Les Ains.
Dans la plaine du Rhône, les cultivateurs de betteraves tentent de tenir bon.
Mais le contexte est difficile et déjà la moitié d'entre eux ont abandonné la culture du légume sucré. Ils ne sont pas les seuls. Au niveau suisse, il reste 16 500 hectares de champs de betteraves alors qu'il en faudrait 20 000 pour produire le sucre suisse. En cause, des revenus qui ont dégringolé ces dernières années, moins 30% avec les aides. Poussé par les lobbies, le Parlement fédéral a concédé un effort au début du mois. Le prix d'achat des betteraves va grimper de 45 à 50 francs par tonne l'année prochaine. Le point sur la situation avec Joseph Meyer, le président de la Fédération Suisse des Betteraviers.
C'était un peu difficile cette année parce qu'on attendait des décisions politiques à Berne où la politique devrait décider s'il continue à soutenir la betterave avec la prime de culture de 2100 francs à l'hectare et cette protection qui n'est pas énorme mais quand même très importante à la douane de 70 francs par tonne de sucre. Et puis cette décision était enfin prise 10 jours en arrière et ça nous donne quand même une certaine sécurité d'avoir un niveau du prix de sucre pour ces 2-3 prochaines années qui permettait d'augmenter le prix pour les betteraves.
Mais la nouvelle ne réjouit pas complètement. Les cultivateurs chablaisiens doivent lutter avec de nouvelles maladies comme le syndrome de basse richesse ou la jaunisse. Et celles-ci font baisser le taux du sucre des betteraves et par conséquent leurs revenus. Les aides fédérales doivent donc être accompagnées d'autres solutions. On retrouve Joseph Meyer.
Si on n'a pas en long terme des solutions pour ces deux problèmes, ça ne va surtout pas suffire. Mais comme on est au point du recherche très active et puis on a bon espoir les 5 prochaines années à trouver les solutions pour ces deux problèmes, je pense ça va donner l'espoir aux producteurs de garder cette production parce que demain, une fois des variétés résistantes, on va nouveau avoir la possibilité avec ce prix qu'on propose aujourd'hui de quand même gagner un peu d'argent, au moins s'en sortir, avoir une culture qui est rentable.
La récolte des betteraves démarrera début décembre dans le Chablais. C'était un sujet de Joël Espy.
Des visites pour découvrir le patrimoine industriel de Montais.
En place depuis 2018, elles permettent de comprendre comment la ville est passée du petit hameau à première cité industrielle valaisanne. Ces visites gratuites sont proposées conjointement par l'Office du tourisme de Montais et par Armand Favre, guide de patrimoine. Il explique ce qu'on peut y découvrir.
C'est le développement de ces premières industries qui ont mené donc un bourg de 1200 habitants au début des années 1800 à une ville aujourd'hui en pleine extension. De 18 000 habitants. Donc il y a eu toute une évolution grâce naturellement à cette force hydraulique qu'on disposait ici à Montais et surtout on assiste à un passage clé qui se situe à peu près vers la fin des années 1800. Donc c'est l'arrivée de l'énergie électrique et c'est ce qui a débouché naturellement sur la construction de nouvelles industries qui se sont déplacées. passer naturellement aux abords de la voie ferrée, parce que la voie ferrée, c'est aussi un élément extrêmement important du développement de l'industrie ici à Monthey. Ça s'est passé en 1859, et le train, naturellement, ouvrait les portes de la France et plus tard de l'Italie au travers du tunnel du Simplon.
Parmi les lieux phares des visites proposées par Armand Favre, on retrouve le Vieux Pont, la Verrerie ou encore le premier atelier Giovanola. Des visites qui permettent donc de parcourir l'histoire de la ville entre les années 1800 jusqu'à nos jours. L'écrivaine montézane Abigail Serrant, à l'origine de Décrire ma ville Monthey, pourtant plutôt bien renseignée sur la ville, a eu son lot de surprises.
C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Je pensais que j'en savais passablement parce que ma famille est d'ici et puis j'ai grandi ici, mais j'ai appris énormément de choses et des détails par rapport à Malévaux, par rapport au fait que ça ait été un centre psychiatrique extrêmement important, par rapport aussi, par exemple, à l'arrivée de l'électricité en ville ou des machines à laver qui nous disent beaucoup des années 50 et de la manière dont on vivait.
Que ce soit les visites ou la lecture de Décrire ma ville pour Monthey, vous le conseillez uniquement aux Montaisans, uniquement à ceux qui viennent de l'extérieur, ou bien ça s'adresse vraiment à tout le monde, chacun peut y prendre ce qu'il veut?
Je crois que vraiment c'est un projet qui s'adresse à tout le monde et je sais que des gens qui ont commandé, qui ont décrit ma ville Bernay parce qu'ils y étaient, ont ensuite été intéressés par Monthey, par Lausanne. Il y a vraiment quelque chose d'universel dans ces petites histoires, mais ça nous donne une assez bonne dimension du territoire actuel mais aussi passé, et ça explique aussi comment les villes se sont développées, donc je crois que c'est très large.
À sa manière, Abigail Serrant contribue à l'entretien de la mémoire montézane à travers sa série « Décrire ma ville ». Après Monthey, Bernay et Lausanne, deux autres ouvrages sont en préparation, Sion et Neuchâtel. Les personnes qui souhaitent partager un texte peuvent le faire jusqu'à la fin de l'année. C'était un sujet préparé par Quentin Frey. Un cluster important de cas de Covid-19 a été identifié dans un EMS neuchâtelois. Sur 31 résidents, 22 personnes ont été touchées. Le taux de couverture vaccinale des résidents était de 91% et de 66% pour le personnel. Les 3 résidents non vaccinés ont tous attrapé le Covid. 16 résidents sur 28 vaccinés ont aussi attrapé le virus, ce qui fait un taux de 58% selon une déclaration de Claude-François Robert, médecin cantonal, confirmant une information de Canal Alpha. Le virus semble avoir été introduit par un membre du personnel. Une personne a été hospitalisée et 2 décès ont été dénombrés.
Une femme de 22 ans a été grièvement blessée par une arme à feu hier soir.
Les faits se sont déroulés dans un appartement de Locarno au Tessin. La police cantonale tessinoise a arrêté un suspect, un homme de 20 ans, qu'elle a placé en détention, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Une troisième personne a également été interpellée sur les lieux des faits, précise-t-elle, ajoutant ne pas vouloir donner d'autres informations pour le moment. Coop va augmenter sa masse salariale de 0,8% en 2022. Le groupe balois de grande distribution et ses partenaires sociaux se sont accordés sur la nouvelle convention collective du travail, reconduite pour 4 ans. Le salaire minimum sera augmenté de 100 francs, passant ainsi à 4100 francs par mois. De plus, l'ensemble des salaires inférieurs à 4400 francs par mois connaîtront une hausse d'environ 1%. Les salaires les plus élevés seront eux ajustés individuellement.
Deux oui solides et un peut-être.
S'ils avaient voté durant la première quinzaine d'octobre plutôt que le 28 novembre, les citoyens suisses auraient largement accepté l'initiative pour des soins infirmiers forts. Ils l'auraient fait à la hauteur de 78%. Ils auraient aussi validé la loi Covid et le certificat sanitaire à 61%. Le peut-être, lui, concerne l'initiative visant à désigner les juges fédéraux par tirage au sort. 43% de oui, 42% de non et surtout 15% d'indécis. À un mois de la votation, les jeux sont-ils faits? On écoute l'analyse de notre correspondant dans Palais fédéral, Serge Jubin.
Pour les deux premiers objets, peut-être bien, même si les initiatives s'essoufflent en général en cours de campagne et sont souvent rejetées au final. Celle pour des soins infirmiers forts dispose d'un appui inhabituellement élevé, près de 80% et 48% d'ultra convaincus. Même s'ils peuvent s'appuyer sur la majorité du Parlement et le Conseil fédéral, les opposants n'auront pas les moyens nécessaires pour renverser l'opinion, même s'ils misent sur la raison plutôt que sur le cœur. Et comme le contre-projet du Parlement est peu connu, il semble impossible d'inverser la tendance. Si l'initiative de l'Association des infirmières et des infirmiers devait être acceptée le 28 novembre, ce serait historique et la première fois qu'une initiative syndicale passe la rampe. Le soutien est solide à la loi Covid, dans la mesure de l'acceptation déjà en votation de la première version au mois de juin. 61% pour, 36% contre. Il y a peu d'indécis, l'opinion semble faite. Seuls l'UDC et les groupements hostiles à la vaccination s'y opposent. Mais comme les vaccinés sont majoritaires, la loi devrait l'emporter. Dernier objet, l'initiative inattendue qui veut désigner les juges par tirage au sort afin de garantir leur indépendance. 43% de oui, 42% de non. Pas de majorité claire et beaucoup beaucoup d'indécis. Le problème pour cette initiative, c'est le peu d'intérêt qu'elle suscite et a priori l'absence de pertinence. Les initiants devront démontrer que les juges ne sont pas indépendants pour espérer l'emporter. Ça a tout d'une utopie.
Précisons que le sondage GFS Berne produit des résultats comparables à ceux du sondage de Tamedia, présenté il y a une semaine. GFS Berne a interrogé plus de 14 000 citoyens. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,8 points.
Le musée du sport suisse de Münchenstein a vendu ses collections.
Vous l'avez tellement bien dit, Axel.
Merci.
Plus de 60 musées, organisations helvètes et internationales ont racheté les milliers d'objets historiques. Pour rappel, le musée est fermé depuis 2019 en raison d'un manque d'argent. Le produit de la liquidation s'est élevé à 945 000 francs, ce qui a permis à l'établissement de faire face à toutes ses obligations financières. Le musée du sport suisse possédait près de 12 000 objets, 200 000 photos, 150 mètres d'archives, ainsi que 11 000 livres et magazines. La Suisse peut à nouveau transférer des familles avec enfants mineurs vers l'Italie. Le tribunal administratif fédéral a publié aujourd'hui un arrêt en ce sens, sur fond de révocation du décret Salvini. Ce dernier prévoyait que les demandeurs d'asile ne puissent être hébergés que dans des centres de premier accueil ou dans des établissements temporaires, des lieux le plus souvent surpeuplés et mal adaptés aux besoins des requérants particulièrement vulnérables, selon le tribunal administratif fédéral. Face à ces conditions inadéquates, le TAF avait interdit le transfert des familles vers l'Italie en 2018, même dans le cas où Élisée avait déjà demandé l'asile avant leur entrée en Suisse.
L'ONU va lancer un nouveau mécanisme pour protéger les défenseurs de l'environnement.
Ce dispositif a été approuvé hier lors d'une réunion entre plusieurs dizaines d'États à Genève. Certains activistes ont été victimes de licenciements abusifs, surveillance, lourdes amendes, intimidation, détention ou même de meurtre. Le mécanisme va permettre d'appliquer le droit à un environnement sain, sûr, propre et durable, reconnu récemment par le Conseil des droits de l'homme. Les engagements actuels sur le climat des États sont un aller simple vers le désastre. Les mots forts du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est dit très inquiet du peu de temps restant pour éviter un échec de la COP26, laquelle commence dans 10 jours à Glasgow. Selon la dernière évaluation de l'ONU, les engagements de réduction des émissions actuelles de gaz à effet de serre de près de 200 pays conduiraient à un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés Celsius, soit bien loin de l'objectif de l'accord de Paris de maintenir ce réchauffement bien en deçà de plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et même si possible à plus 1,5 degré.
Réunis hier en sommet, les dirigeants européens ont affiché leur fermeté mais aussi tendu la main à la Pologne.
Le pays est, on le rappelle, en conflit avec Bruxelles sur l'indépendance de la justice et la primauté du droit européen. Nous n'agirons pas sous la pression du chantage, mais nous sommes prêts au dialogue, a déclaré le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron, avant le début du sommet qui s'est ouvert peu après 15h30. Nous allons bien sûr discuter de la façon de régler les différends actuels, a ajouté le responsable polonais. 15 personnes sont mortes dans l'incendie d'une usine de fabrication d'explosifs à destination civile dans la région russe de Ryazan, à environ 200 km au sud de Moscou, ont annoncé ce matin les secours. L'incendie serait dû à la violation d'un processus technologique et des normes de sécurité. Plus de 170 secouristes ont été dépêchés sur les lieux afin de maîtriser le sinistre, qui ne menace pas la population des localités voisines, selon le ministère des Situations d'urgence. En tennis, la belle série de Henri Laaksonen a pris fin hier soir à Anvers. Au deuxième tour de ce tournoi ATP 250, le Chafouzois, qui restait sur 8 succès consécutifs, s'est incliné 7-6, 6-7, 6-3 en 2h24 devant l'Américain Brandon Nakashima.
En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron et le Montezan Dave Souter vivent une période de rêve.
La formation du défenseur chablaisien a remporté mardi soir une 10e victoire d'affilée en National League. Dans toute leur histoire, les Dragons n'avaient jamais réalisé un tel exploit. Contre Berne, Dave Souter et ses coéquipiers ont donc su créer un exploit. Reste désormais à savoir où les Fribourgeois, leaders du championnat, vont bien pouvoir s'arrêter. Le fait de prolonger au maximum cette belle série est-elle devenue un objectif dans le vestiaire? On écoute Dave Souter.
Oui, c'est clair qu'on voudrait. Aucune équipe veut perdre un match, ça c'est sûr, que ça soit dans une série ou pas. Mais on se fixe vraiment pas d'objectif de faire tant de matchs gagnés à la suite ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste gagner le maximum de matchs pour rester premier, c'est tout.
Mais avec une telle série, est-ce que vous avez l'impression quand même que ça envoie un message au reste de la Ligue cette saison? Il va vraiment falloir compter avec Fribourg-Gotteron?
Oui, je pense que c'est le but aussi. On aimerait être une équipe, une organisation respectée de tous et puis montrer qu'on est capable de jouer. Parce que souvent, on voit, on nous met pas forcément dans les bonnes équipes du championnat. Et je pense que c'est aussi un moyen de dire à tout le monde que voilà, il faut compter avec nous aussi. Mais on continue à travailler, on sait qu'on a énormément encore à faire. Il n'y a que 15 matchs pour l'instant dans le championnat. Mais nous, on veut vraiment montrer de l'attitude, du caractère, et puis essayer de montrer une certaine identité de Fribourg-Gotteron.
Pour tenter de décrocher une 11e victoire d'affilée en championnat, les joueurs de Gotteron se rendront ce soir à Rapperswil. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 19h45. C'était un sujet signé Julien Traxel.
En ski alpin, l'hiver commence ce week-end pour les meilleurs spécialistes de la planète.
Un peu plus de 7 mois après la fin de la saison 2021-2022, la Coupe du Monde reprend ses droits ce week-end. Et comme le veut la tradition, les choses sérieuses commenceront demain à Solden, sur le glacier du Rettenbach. Un géant féminin et un géant masculin figurent au programme. Et sur les deux courses, plusieurs Suisses font figure de favoris. De son côté, Camille Rast devrait jouer les seconds rôles. La Valaisanne, spécialiste de slalom, entend surtout profiter de son passage dans le Tyrol pour lancer au mieux sa saison. Elle revient sur les points clés qui devraient rythmer son hiver, Camille Rast.
Je pense que je peux garder le fait que même en ayant des gros dossards, je suis capable de venir devant, donc il faut que je me fasse confiance, que je skie comme je sais faire, comme je le fais à l'entraînement. Et peut-être ce qu'il faut que je garde un peu moins, c'est les doutes que je pose envers moi-même, ou après autant de places entre 31 et 35, 36, ça a été vraiment mentalement difficile, parce qu'à un moment donné, je me suis dit non, mais c'est pas possible, en fait, j'arriverai jamais à juste passer ce petit cut, alors qu'à chaque fois, il manquait quelques centièmes, quelques dixièmes, c'était vraiment très proche, et malheureusement pour moi, dans des manches qui étaient avec un peu trop de fautes. Donc ça, je pense qu'il faut que je laisse de côté pour attaquer cette saison.
Camille Rast au micro de nos confrères de Rhône FM. Le début de la saison de Coupe du Monde de ski alpin est donc prévu ce week-end à Solden. Alors que les dames seront à l'honneur demain, la journée de dimanche sera pour sa part dédiée aux hommes.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec les mines de sel de baie et leur visite comptée à l'Omine truffée de mystères. www.mine.ch.
Le temps sera de plus en plus ensoleillé cet après-midi. Il va faire jusqu'à 14 degrés en plaine, 10 à 1000 mètres et 3 degrés à 2000 mètres. Pour ce week-end, Météo Suisse nous annonce du stratus jusque vers les 1000 mètres le matin. Sinon, le temps sera ensoleillé. Il va faire de 3 à 12 degrés en plaine, de 0 à 9 à 1000 mètres et de moins 2 à 4 degrés à 2000 mètres.